je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
CFM.
Bonjour. Salut à tous. Bienvenue dans une nouvelle émission des Roquets Rouges. Nous sommes au 32e jour de dictature, enfin d'état d'urgence. Hein, on n'a toujours pas le droit de manifester. Voilà, mais et puis ça n'a pas l'air de s'arranger. Alors avec nous aujourd'hui Miss Roquette qui est là, fidèle au poste.
Bonjour.
Salut. Romain qui lui va. Salut. Tu vas bientôt prendre des points fidélité, toi. Ça fait quoi deux fois de suite que t'es là, quoi.
Ah ouais.
Benjamin était prévu, mais il nous fait une romanisation. Il a oublié encore. Et moi-même, Guillaume, pour vous servir. Ah, ça va?
Ça va bien.
Ouais, vu qu'on est trois, il va falloir meubler, hein, j'aurais dit tout à l'heure.
Pour resituer pour les auditeurs, là, on est en train d'enregistrer, on est entre les deux tours des régionales.
Ne pourris pas mon édito parce que c'est, j'en parlais aussi.
Ouais. D'accord, mais voilà. je comptais pas aller plus loin, mais c'est
très
juste
bien.
Pour,
bon.
Voilà. Et on n'a pas encore les conclusions de la COP21 non plus.
Non plus, voilà. Est-ce que la planète est sauvée ou est-ce que vous serez tous morts mardi? On sait pas, ça se trouve, on verra bien. On sait pas.
Voilà, tu vas nous faire ton édito, comme
Exactement.
Ça je risquerai plus de mettre les pieds dans le plat.
C'est très gentil, merci. Alors, comme je le disais, nous enregistrons cette émission le jeudi 10 décembre pour être diffusée le mardi 15 décembre, on est d'accord. Or, entre ces deux dates, il y a le second tour des élections régionales. Second tour qui oppose en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Louis Alliot, Front National, arrivé en tête du premier tour avec 33% des voix, Carole Delga du Parti Socialiste, 24% au premier tour, et Dominique Régnier pour la droite, 18%. Alors on vous cause, nous ne savons donc pas qui a pris les manettes de la région, et c'est bien embêtant pour écrire un édito. Mais j'ai trouvé la solution. Donc Tristan, c'est notre technicien, hein, c'est...
Super technicien.
C'est un génie, quoi. Des fois, on lui demande de couper des petits morceaux, parce que des fois, on dit des grosses conneries, des grosses boulettes qu'on n'assume pas, et il retrouve l'endroit, il coupe ça, c'est un chirurgien, vraiment, et on s'aperçoit de rien, hein.
Mais c'est vous en rendez pas compte. Ouais. Toutes les fois où on insulte tous nos auditeurs, c'est vrai qu'il a bien rattrapé,
vrai,
quoi.
Ouais. D'ailleurs, on est tous bègues, hein, et ça s'entend pas.
Ça
s'entend pas à la
radio. Ça a l'air hyper fluide.
Donc, Tristan, je vais encore te demander, ta contribution, c'est-à-dire, on va enregistrer deux chroniques, hein, et en fonction du résultat, tu passeras l'une ou l'autre, hein. Surtout t'oublie pas, hein. Je compte sur toi. Il me fait un geste, il me lève le pouce ou le majeur, je sais pas. Bon, voilà. Donc, alors, si Carole Delga l'emporte, voici la chronique.
Guillaume est en train d'enfiler une chapka communiste.
Salut les Roquets Rouges! La gauche l'a emporté en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon! Ouais! Le fourbe frontiste fascistoïde Alliot est battu à plate couture, bien fait! Vous le savez, j'ai toujours été de gauche, j'ai toujours été socialiste, je dirais même mieux, les socialistes eux-mêmes ont toujours été de gauche, j'en ai toujours été persuadé. Grâce à la camarade Carole Delga, l'avenir s'éclaircit, les souffrances du peuple sont derrière nous, le patronat va rendre gorge, le climat est sauvé et mes cheveux sont plus soyeux. Longue vie à la glorieuse République populaire de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et gloire à notre leader bien-aimé, notre camarade Carole Delga, qui nous conduit d'une main audacieuse vers des horizons, de radieux horizons socialistes. Vu qu'on n'était pas ensemble au premier tour, j'ai préféré rester sobre. Hein, parce que, voilà. Bon. Alors maintenant, hein, Tristan, on va enregistrer la chronique si c'est Louis Alliot qui l'emporte.
Cette fois-ci, il met un béret.
Salut les roquets bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, c'est la France qui l'a emporté en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, grâce à son avant-garde audacieuse, le Front National. La petite bourgeoise bobo-bolchevique Delga est battue à plaque couture. Bien fait. Vous le savez, j'ai toujours été un fervent patriote, et je peux le dire maintenant, je suis un militant frontiste de la première heure. J'étais seulement infiltré dans les milieux gauchistes au péril de ma vie, et j'en sais des choses. En gage de ma fidélité au FN, je vais sans plus tarder commencer à dénoncer des gens, des mauvais patriotes, des traîtres à leur patrie, et à leur parti aussi. Le premier nom sur ma liste est... Jean-Guillaume Remise, tête de liste Front National en Aveyron, qui, lui, je le sais, est un gauchiste infiltré de longue date dans les milieux patriotes. Ce stalinien fait souvent des allers-retours en Chine communiste. Coïncidence, je ne crois pas. Pour vérifier mes dires, monsieur Alliot, il vous suffit d'envoyer à son domicile le service de sécurité du FN, le fameux DPS, et qu'il l'interroge vigoureusement. Joignez-y Jean-Marie Le Pen, en termes d'interrogatoire, il a de l'expérience depuis l'Algérie française. Au début, Jean-Guillaume Vanier, hein, il est très fort et bien entraîné, mais au bout de quelques jours de gégène dans les roubignoles et de coups de trique dans la tronche, il deviendra doux comme un agneau, il avouera tout. N'hésitez donc pas à y aller sévère. Bien fait pour ta gueule, Jean-Guillaume, espèce de sale communiste, tu me dégoûtes. Travail, famille, région, vive Louis Alliot, vive la France. Voilà, merci pour mon édito. Je pense que c'est bon, là, moi je suis tranquille, en tout cas, quoi qu'il arrive pour le résultat. Aujourd'hui, Miss Roquette va nous parler d'écologie, Romain va nous parler de traumatisme, et voilà. Moi, à la fin de l'émission, je vous ferai un gros point Godwin au milieu du studio. Voilà. En attendant, s'il n'y a pas de commentaires, on va écouter une petite musique. Alors, c'est Les Berruriers Noirs, c'est absolument pas une musique... par rapport aux élections qui viennent d'arriver, c'est plus une musique en rapport aux attentats qu'il y a eu il y a quelques semaines, sachant que bah il y a des attentats, il y en a pas que en France, il y a aussi beaucoup de peuples qui sont touchés par le fascisme islamique et on pense à eux aussi. Ça s'appelle Salut à toi.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous, les partisans. Salut à toi, Choli Allemande. Salut à toi, le Vietnamien. Salut à toi, le Cambodgien. Salut à toi, le Japonais. Salut à toi, le Thaïlandais. Salut à toi, le Laotien. Salut à toi, le Coréen. Salut à toi, le Polonais. Salut à toi, l'Irlandais. Salut à toi, l'Européen. Salut à toi, le Mongolien. Salut à toi, le Hollandais. Salut à toi, le Portugais. Salut à toi, le Mexicain. Salut à toi, le Marocain. Salut à toi, le Libanais. Salut à toi, le Pakistanais. Salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le Kyoshti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes. Salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi Skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi Pop Chanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le peuple basque. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les Morocons. Salut à toi, le Yougoslave. Salut à toi, le voyou slave. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Molodoy. Salut à toi, le Chinois. Salut à toi, le Zaïrois. Salut à toi, l'Espagnol. Salut à toi, le Ravachol. Salut à toi, le Hongrois. Salut à toi, l'Iroquois. Salut aussi à tous les gosses. Maudit jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut aux filles du Crédit, salut à toi la vache qui rit, salut à Lorraine et Harry, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les verticoles, salut aussi à Youth Rider, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi, tonton Albert. Salut à toi, qui est à la masse. Salut aussi à Fantomas. Salut à toi,
perroquet rouge. Il crie, il mord et il s'enfuit.
Salut à toi Clément Méric, salut à toi Rémi Fraisse, salut à toi à tous les antifascistes, etc., etc. Voilà, c'était pour penser à tous les peuples qui sont voilà les Nigérians, les Kenyans, les Palestiniens, les Irakiens, les Syriens. Voilà, on les oublie pas et on essaie d'éviter d'avoir le. Comment tu disais ça? C'est toi qui disais ça, Romain, la dernière fois, de faire le principe du mort au kilomètre. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Youpi.
Youpi, tralala. Vous avez entendu l'espèce de reprise qui a été faite sur l'Aveyron d'un gars.
Non.
Non, mais vous avez pas raté grand chose parce
c'est quoi,
que c'est vraiment.
C'est quoi, c'est quoi, c'est un de la tête.
C'est vraiment, c'est un gars, j'espère que c'est pas son métier, chanteur ou monteur, parce que ça soit au niveau chanson ou au niveau montage, c'est quand même assez moche, quoi.
C'est quelle reprise?
Et il fait la reprise de cette chanson-là,
ah bon,
mais c'est
oui,
salut à toi le Decazevillois, salut à toi le Ruthénois, salut à toi, et il fait tous les bleds de l'Aveyron, ça dure à peu près aussi longtemps, et il y a pas de message derrière, quoi, c'est juste,
ouais, c'est cool
parce
de
que celle-là, elle est un petit peu longue, mais il y a un message politique derrière,
oui,
tu vois,
ouais.
Et alors du coup, ça la rend supportable, mais quand c'est juste du chauvinisme, alors ça a fait beaucoup de vues, mais alors ça fait saigner les oreilles et les yeux, quoi. C'est, enfin bon.
Ça me rappelle les politiques qui ont leur slogan fier d'être français ou fier d'être ruthénois. Il y avait au municipal, il y a encore avant, pas les dernières, mais les autres, à Toulouse, il y avait un candidat communiste qui, son slogan, sa devise, c'était fier d'être toulousain. Oui, d'accord, ok, oui, ça plaît à tout le monde, mais politiquement, c'est pas très profond, quoi.
Voilà. Les fameux imbéciles qui sont nés quelque part.
Exactement, voilà. Bon, ceci dit, on va écouter Miss Roquette. Tu nous parles d'écologie pour changer.
Oui, pour changer, parce que en fait, on avait parlé vite fait de COP21 au tout début de la saison.
Oui.
Romain nous en avait parlé, et puis il nous avait promis de revenir plus amplement sur le sujet d'ici la COP.
La déprime a gagné. Je ne veux plus en parler.
C'est ça. Et puis bon, l'actualité a été riche entre guillemets, enfin terrible, mais elle nous a inspiré.
Touffu.
Voilà.
Non, pardon,
oh, l'amalgame!
Non, mais attends, tu veux que ça débarque, tu veux que la police débarque à CFM, il y a des mots qu'il faut pas dire, hein. Kalachnikov, Ben Laden, Daesh, si on les dit à l'antenne, ça, on interdit l'antenne, là, oui, là, c'est l'état d'urgence, là, bon.
Donc, faut pas déconner.
Donc, on n'a pas dit barbu.
Donc, du coup, je reprends le flambeau, parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé écologie, quand même, parce qu'il y a ma copine Amanda qui a pas mal pris le créneau aussi. Donc, je voulais revenir sur le changement climatique. Donc on entend des climato-sceptiques qui nous disent « Ouais, mais les changements climatiques, il y en a toujours eu, depuis que la Terre existe, c'est naturel. » Et c'est vrai, des glaciations, il y en a eu, des réchauffements, il y en a eu, ça a participé à avoir une biodiversité qui est aussi importante que ce qu'il y a maintenant, parce que à chaque fois, les espèces animales, végétales, virales, bactériennes... s'adaptent pour survivre. Donc ça, c'est vrai, mais le réchauffement climatique auquel on fait face en ce moment, il n'est pas naturel, il est lié à l'activité humaine et il est beaucoup plus rapide que les autres changements, ce qui pose des problèmes, puisque l'évolution, ça prend du temps. Pour la plupart des espèces, en tout cas, pour les espèces complexes, ça prend beaucoup de temps, ça prend des dizaines et des dizaines de générations, et là, on n'a pas des dizaines et des dizaines de générations pour faire face au changement. Enfin bon, ce problème, le réchauffement climatique, il est donc lié à l'activité humaine, et il est lié au fait qu'on recherche comme objectif... en tout cas sur une grande partie de la planète, une croissance économique toujours plus importante. Alors, il faut consommer toujours plus pour entretenir la machine, consommer toujours plus, jeter toujours plus, et tout ça, ça pollue. Et en plus, on oublie que c'est totalement ubuesque, quoi, puisque on doit consommer toujours plus et croître toujours plus, mais dans un monde limité, fini, qui lui n'augmente pas. Enfin, en ce moment, le jour du dépassement, c'est la date à laquelle on vit à crédit sur la planète, où on a dépensé plus de ressources dans l'année que ce que la planète est capable de générer.
De produire en un an, c'est ça.
Ouais. Cette année, là, en 2015, c'était le 13 août. Donc, depuis le 13 août, on vit à crédit sur la planète, sachant qu'on n'a rien pour la rembourser, quoi. On fait des chèques en blanc, quoi. Donc, ça finit mal, en général, ces histoires-là.
On se fait expulser.
On se fait expulser.
Sauf que là...
Là, la planète, bon, elle a des solutions un peu plus radicales.
Ouais, elle va nous digérer.
Des solutions un peu plus finales, si on peut me permettre un petit point Godwin.
Tiens donc, oui.
En fait, pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, en biologie, souvent, on essaye d'étudier des phénomènes complexes et pour essayer de comprendre comment ça se passe, ben, on les simplifie. Et sur des phénomènes qui prennent très longtemps, on essaye de trouver des organismes qui font les mêmes choses, mais en beaucoup moins longtemps. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, on peut prendre l'exemple de bactéries qui sont, par exemple, dans un litre de lait. On ensemence un litre de lait avec des bactéries et on regarde ce qui se passe. Alors au début, les premières heures, il y a le nombre de bactéries qui reste à peu près normal. Ils sont en train d'observer un petit peu la colonie de bactéries, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'il y a à bouffer. Puis ils se rendent compte qu'il y a plein à bouffer autour. Donc elles bouffent, elles se multiplient à fond. Et il y a une deuxième phase de croissance exponentielle, les bactéries se multiplient à fond. Ensuite, on arrive à une phase stationnaire, qui dure plus ou moins longtemps selon la rapidité de reproduction des bactéries. Cette phase stationnaire, ça correspond en fait à une phase où les bactéries se reproduisent aussi vite que ce qu'elles meurent. Donc la population est à peu près constante. Mais toute cette vie de bactéries, les bactéries, elles mangent les ressources. Elles mangent.
Oui.
Les ressources ne se reproduisent pas, ne se renouvellent pas. Et en plus, les bactéries, elles produisent des déchets. Et en fait, petit à petit, ces déchets vont augmenter la toxicité du milieu. C'est pour ça que votre lait, il tourne quand il y a trop de bactéries dedans. Et ça va devenir toxique même pour les bactéries elles-mêmes. Et donc, à la suite de cette phase stationnaire, il y a une phase de déclin qui est irrémédiable, qui est moins rapide que la phase de croissance exponentielle, mais qui est quand même bien, bien bam dans ta gueule parce que ben, il n'y a plus rien à bouffer et que ben, le milieu est complètement pourri, quoi.
Est-ce qu'il y a du cannibalisme entre bactéries ?
Ça peut arriver. Mais ça ne fait que retarder l'échéance.
Ouais.
Puisque tu as quand même toute la toxicité qui s'est accumulée et qui va continuer à tuer les bactéries. Donc voilà, je me dis que bon, individuellement et collectivement, on devrait avoir un peu plus d'intelligence que quelques bactéries dans un litre de lait. En même temps, j'en suis pas non plus 100% convaincue. Donc maintenant que vous avez ce petit exemple dans la tête.
Oui.
Donc on va repasser à notre échelle. Donc nous les humains, on pollue et on surexploite la nature. On bouffe, on rejette nos déchets dans la nature, enfin, on les rejette tellement vite que la nature a pas le temps de les résorber, de les absorber, de les détruire et du coup, ça entraîne des problèmes. Ça entraîne le réchauffement climatique entre autres. Puisque tout le CO2 et autres gaz à effet de serre qu'on rejette n'est plus absorbé par les poumons de la planète que sont l'Amazonie qu'on déforeste et les océans qui sont de plus en plus pollués où le phytoplancton a du mal à se développer. Donc ça entraîne aussi des augmentations des catastrophes naturelles à peu près multipliées par 3 en 40 ans. Ça entraîne des sécheresses, ça entraîne l'appauvrissement des sols et la salinisation. Donc en fait, on tue la terre. Donc il n'y a plus grand chose qui pousse dessus. Alors quand c'est des arbres, tout ça, un bon être anthropocentré, on s'en tape. Mais quand c'est le blé ou le maïs qui baisse leur production, leur rendement, et qu'en même temps on a une augmentation de la population terrestre, vous vous rappelez, phase de croissance exponentielle avant de stagner et le gros déclin dans ta gueule. On a l'élévation du niveau des océans. Bon, c'est l'élévation du niveau des océans, ça peut être sympa, hein. Je veux dire, l'Aveyron, on se rapproche de la mer, bon, en plus, ça va noyer un petit peu Languedoc-Roussillon, ce qui nous fait monter.
Tiens, ma foi, oui.
Tu vois, ça va faire baisser le taux de FN, donc, bon. Voilà, c'est peut-être pas trop une mauvaise idée, mais bon. Bon, chez
le
nous.
Le PACA peut-il disparaître, s'il vous plaît?
PACA peut-il être noyé? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop.
C'est un peu radical, mais faut y penser, ouais.
Faut pas exclure ça. Ouais.
Bon, c'est en même temps PACA, ils ont quand même du blé comme en Hollande par exemple, ils ont du blé, enfin du blé du fric parce que le blé, on a vu son rendement est en train de chuter. Donc ils ont de quoi construire des digues pour pas se noyer. Par contre, au Bangladesh, ça pose un peu plus de problèmes puisque ils sont aussi bas voire plus bas que la Hollande et eux, ils ont pas du tout les moyens de construire des digues. Donc déjà que ils sont bien dans la merde, ça va pas aller en s'améliorant. Qu'est-ce qui se passe dans la nature quand on a un changement climatique, un réchauffement climatique?
D'après vous, on fait le tri, les plus faibles disparaissent, quoi. C'est la sélection naturelle, c'est ça?
Alors, il y a de ça. Effectivement, il y a pas mal d'espèces qui disparaissent sur les dernières. Je crois que c'est depuis les années 70, il y a à peu près la moitié des mammifères, des oiseaux et des poissons, des espèces qui ont disparu. Mmh. Bon, c'est que la moitié. Hein, il nous en reste encore la moitié, ça va.
On les met dans les eaux, quoi. Les autres, c'est tout. Quoi.
On les met dans les eaux. Ouais. Non, disparu, c'est vraiment. Il y en a plus du tout.
Comme le dahu, ça j'en ai jamais trouvé.
Oui, non, ça fait quelque temps que c'est éteint, ouais, le dahu. Et ceux qui arrivent encore pour le moment à survivre, eh ben en fait, ils vont migrer. Ils vont migrer vers des conditions de vie ou de survie plus favorables. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jolis mésanges des espèces des sous-espèces qu'on n'avait pas encore ici et qui commencent à arriver. Oh, c'est super joli. Et puis c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec des maladies tropicales type chikungunya qui arrivent jusqu'à chez nous et qui s'y adaptent, quoi. Enfin, c'est cool, il fait chaud. Donc ça passe. Puis il y a aussi des trucs sympas comme le frelon asiatique qu'avant il arrivait pas à s'installer ici et puis maintenant bon, ça va, c'est vivable pour lui ici. Mais il y a aussi d'autres problèmes avec ce déplacement, ces migrations de différentes espèces, c'est que on dérègle les écosystèmes parce que par exemple les papillons, ils vont pas migrer aussi vite que les oiseaux qui sont les prédateurs des chenilles. Donc on se retrouve avec des gros problèmes, notamment, enfin ça avance tous les ans un peu plus le front des chenilles processionnaires en France parce que ils ont
les
pas
les oiseaux sont pas là pour les bouffer.
Ouais,
encore,
ouais. Les chenilles arrivent, elles sont déjà en train de se multiplier. Les oiseaux sont toujours, comme tu dis, en Afrique.
Qu'est-ce qui branle ces oiseaux-là, cette bande de fainéants là?
Eh ben ils supportent un peu mieux le réchauffement climatique que les papillons. Donc ils se sont
35
pas encore,
heures, oui, c'est sûr.
Ils n'ont pas encore migré. Et donc, du coup, on se retrouve... Ça détruit énormément de récoltes, ça détruit énormément de forêts, les chenilles processionnaires, mais il n'y a pas que... Enfin, il y a plein d'autres chenilles, et ça, c'est qu'un exemple de relation prédateur-prédaté parmi tant d'autres. Les autres problèmes par rapport aux disparitions d'espèces, c'est par exemple la disparition progressive des abeilles. Dans certains pays, c'est tellement... elles sont tellement en train de disparaître qu'on est en train de payer des gens pour aller polliniser les arbres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent leur journée avec un coton-tige dans l'arbre à passer fleur après fleur pour aller les polliniser.
Et ça doit être très chiant, moi, les visages.
Ça doit être très, très chiant.
Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie?
Je suis pollinisateur.
Ça va leur coûter cher au patronat aussi. Quand il faudra faire ça, les milliards que la nature offre.
Excessivement cher.
C'est très joli.
Excessivement cher.
Tu fais quoi comme métier? J'ensemence des fleurs.
C'est très poétique.
C'est classe, mais c'est très chiant, mais bon.
Ouais, t'imagines le contremaître. Dis donc, t'as oublié 20% des fleurs, là, tu crois que je t'ai pas vu? Non, c'est une galère, quoi. Enfin, on se retrouve dans des situations complètement folles où on est obligé de payer des gens à faire des choses que la nature faisait gratuitement avant. Et tous ces dérèglements, tous ces changements, on s'en rend pas forcément compte avec nos sens. Par exemple, le fait que les 50% des espèces aient disparu en 40 ou 50 ans, je sais plus. Le fait que petit à petit la température est montée déjà de
0,85,
c'est ça, depuis les premiers enregistrements.
Depuis
on s'en rend pas compte.
Ouais.
On s'en rend pas compte, c'est un peu le problème de... Il y a une expérience qui avait été menée, on mettait une grenouille dans un aquarium avec une petite espace de terre qui sortait de l'eau. Et en fait, toutes les semaines, on augmentait d'un demi-degré la température de l'eau pour voir à partir de quel moment la grenouille sort de l'eau et va se mettre sur la terre. Et en fait, la grenouille ne sort pas de l'eau, elle meurt ébouillantée. Elle se rend pas compte du changement progressif.
Trop conne la grenouille.
Mais bon. Trop conne la grenouille. Mais on se rend pas compte qu'on a déjà pris des degrés et que, avant que les mers se mettent à bouillir, on sera sérieusement dans la merde. Du coup, on réagit pas trop. Enfin, quand je dis on, c'est la population mondiale ne réagit pas énormément, pas trop sur les problèmes d'environnement pour le moment. On se concentre sur les problèmes entre guillemets plus pressants comme la crise économique, le terrorisme, sans se rendre compte que l'environnement est un problème au moins aussi pressant. Puisque il y a une inertie qui est folle, même si on s'arrêtait maintenant de produire des gaz à effet de serre, la température continuerait encore à augmenter pendant les 10-25 prochaines années. Et que ce problème, il est totalement lié et il a des conséquences directes sur les problèmes qu'on considère comme prioritaires, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure, crise économique, terrorisme, etc. Par exemple, de problèmes en partie causés par le changement climatique, on peut citer la sécheresse record entre 2007 et 2010 dans le croissant fertile. Alors bon, ça a entraîné des famines. Alors, des
le croissant fertile, précise où c'est.
Alors, croissant fertile, c'est Irak, Syrie, voilà, etc.
Turquie,
ouais, ça descend.
Palestine jusqu'au bassin du Nil, c'est ça.
Le berceau de la civilisation.
Le berceau de la civilisation. Et puis, si vous avez suivi, là, les pays qu'on vient de citer, c'est un peu les pays où c'est bien la merde en ce moment.
C'est un peu chaud, peut-être,
ouais. Ouais. Et en fait, dans ces régions où il y a eu cette sécheresse record, l'agriculture s'est effondrée entre 2007 et 2010, ça a entraîné des famines. Et dans un contexte où il y a des disparités sociales, il y a ceux qui arrivent encore à se nourrir et ceux qui n'y arrivent plus. Et ça a tendance à activer les tensions, et notamment entre les différentes communautés qu'il peut y avoir, à cristalliser les tensions, par exemple, entre sunnites et chiites, qui ont jamais été super, super potes, mais quand, en plus, t'as l'impression qu'il y en a un qui te vole ta nourriture et que c'est une question de survie.
Partager la bouffe, ouais,
ça cristallise un petit peu les rancœurs qu'on peut avoir. Donc, ça entraîne, en partie, c'est pas la seule cause, mais ça aide à faire naître des guerres civiles. Autre exemple, c'est avec la montée des eaux et la désertification de certaines régions de la planète, les migrations d'espèces animales pour survivre s'accentuent. Et quand je parle d'animal, c'est au sens biologique, ça concerne aussi les hommes. Donc on fait que commencer à voir les réfugiés climatiques arriver. Alors attention, le FN, c'est un petit message pour vous. Il vous faut de toute urgence réfléchir à un volet écologie pour votre programme, parce que ils arrivent, les réfugiés climatiques arrivent. Attention. Autre exemple, au lieu de fonctionner à fond sur les énergies fossiles bien polluantes et qu'on produit avec un coût environnemental très important, renforçant les problèmes précédemment cités, pourquoi ne pas passer à des énergies locales et regagner notre souveraineté énergétique? Des énergies françaises, produites en France par du soleil bien français et du vent encore plus franchouillard. Il y a de quoi faire bander toute la famille Le Pen. En plus, on n'achèterait plus à des gens pas très recommandables comme Poutine. Ah, on me signale dans l'oreillette que l'érection des Le Pen vient de retomber.
Ah non, ils sont très potes avec Poutine.
Justement, le fait de couper les vivres à Poutine, d'accord. Là, ça leur a coupé la chic. Bon, il n'y a pas que Poutine qui exporte du pétrole et du gaz. Il y a Daesh, il y a l'Arabie Saoudite, enfin plein d'amis des droits de l'homme, quoi. Enfin, ils sont super cool. C'est cool de les financer. Et en plus de créer l'énergie localement, ça veut aussi dire créer de l'emploi localement pour installer et entretenir les installations. Et soit dit en passant, le secteur des énergies renouvelables est un des rares secteurs où les emplois ont continué à augmenter pendant la crise économique. Au lieu de favoriser l'agriculture, c'est encore un autre exemple, l'agriculture conventionnelle par les aides de la PAC, entre autres, et les aides nationales, on pourrait favoriser, je sais pas moi, la transition vers l'agriculture raisonnée, voire bio. Là aussi, ça va être de la création d'emplois, puisqu'au lieu d'avoir un agriculteur pour X tonnes d'hectares, on ramène une agriculture paysanne avec plus d'agriculteurs sur des plus petites exploitations. Et en plus, ils produisent des produits de qualité, ce qui a un impact important sur la santé publique. Donc, ça nous évite de payer très cher pour rembourser des cancers, par exemple, puisque, même si Monsanto veut pas l'admettre, quand même, il y a quand même quelques preuves que le glyphosate, entre autres, aurait une corrélation sur des malformations de bébés et sur des cancers en veux-tu, en voilà. C'est que des idées. Enfin, il y a plein de choses à faire et une partie est entre les mains des États à la COP21. Donc, je croise les doigts pour l'issue de la COP21.
Ils s'en foutent, ils sont loin de ça, ils le comprennent même pas. L'esprit mais de la relocalisation, tout ça, ils sont loin de tout ça, tous ces gens.
Non, mais en même temps, ils sont là-bas, mais ils sont en train de travailler sur le TAFTA et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, celui entre le Canada et...
L'Aliena. Mais le TAFTA, c'est enterré pour l'instant.
C'est enterré.
Pour l'instant.
Pour l'instant,
tu es en train de nous donner une bonne nouvelle, là, Romain, ou quoi?
Non, non, je suis on en parlera après, si vous
d'accord.
voulez.
D'accord.
Ouais, bon, bref, la COP21, j'y crois pas trop parce que, quand ils rentrent tous à contre-cœur en se disant oui pour un accord, mais pas trop contraignant quand même. Hein. Bon, ça pue un peu. Mais bon, il faut pas désespérer parce qu'il y a une partie qui est dans nos mains à nous. Et ça, c'est chouette. On a du pouvoir. Et on a du pouvoir, mais si on décide de le prendre. Alors, comment faire? Eh ben, je pense que dans un pays et dans un monde où la croissance économique prise, c'est au portefeuille des multinationales et des fermes usines, etc., qu'il faut frapper en privilégiant une consommation locale et issue de petites exploitations à des grosses productions, plutôt les circuits courts que des grosses productions importées qui ont fait trois fois le tour de la planète d'une usine à l'autre. On peut privilégier et là en fait j'ai arrêté d'écrire ma chronique. Il va falloir m'aider les gars.
En plus pour le chômage.
Eh ben tu conclus voilà.
Pour le chômage c'est phénoménal. Une ferme moyenne en France elle fait 55 ou 59 hectares je sais plus. Mais en réalité pour vraiment vivre agriculteur s'installer en mode conventionnel il en faut plutôt 100 on va dire en fonction de ce qu'on fait. Si on est en bovin viande ou bovin lait c'est kiff kiff quoi. Alors que en maraîchage les meilleurs des meilleurs en permaculture intégrale et compagnie ils arrivent avec 2000 mètres mais ça c'est exceptionnel. Mais un maraîcher classique même un maraîchage classique, hein, pas des solutions technologiques très innovantes. Le maraîchage classique, avec une hectare et demi, on vit. En sachant qu'il va falloir se retourner vers les légumes pour arriver à... On ne pourra pas bouffer de la viande comme on en bouffe. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, on est à 100, c'est-à-dire que tu multiplies par 90 le nombre d'agriculteurs qu'il y a en France. On a du chômage, là, il y a du boulot. On a des soucis de CO2, là, on arrêtera d'en consommer en arrêtant de faire à 6000 km en moyenne à tous les produits qu'on bouffe. On a des soucis...
Donc, une des solutions de Romain, si vous avez bien écouté, c'est réduire votre consommation de viande.
Et
alors,
oui,
ça
oui.
fait un petit sacrifice.
Vous avez entendu, les enfants, il faudra manger des haricots et des épinards.
Non, mais en manger, même que vous en mangiez, en manger qui viennent de moins loin, quoi. Et ça réduit un troisième souci, parce que tout le monde pense beaucoup à ce qui est économique ou écologique, mais il y a aussi l'aspect psychologique, bien-être des gens. Mine de rien, les gens, quelqu'un qui va sur une petite, qui travaille, qui soit deux ou trois sur une petite exploitation maraîchère, c'est une personne qui a un savoir-faire, il va apprendre un métier vrai qui s'apprend sur des années et cultiver plein de sortes de légumes. Et c'est là où la personne, elle ira mieux, plus qu'économiquement ou écologiquement, se réapproprier un savoir-faire. Souvent, on parle des prolétaires. Un vrai prolétaire, au sens philosophique du terme, c'est quelqu'un qui a perdu tout savoir-faire. C'est
non.
pas juste quelqu'un non. qui est pauvre.
Mais on va pas rentrer dans le débat.
Mais mine de rien, non, c'est juste pour dire que non seulement ces solutions-là, elles sont pas positives juste pour l'économie, l'écologie, mais même pour le bien-être des gens, quoi. Se réapproprier un savoir-faire et avoir une utilité sociale avérée, quoi.
Oui, en coup, la zone de l'écologie, mais c'est aussi un enjeu social.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, on en rediscute après, et voilà. Donc, faut manger des légumes, conclusion. Miss Roquette, t'avais une musique à proposer.
Oui, c'était Joni Mitchell, Yellow Big Taxi.
Ok.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't
always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. You paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Ladies and gentlemen, we got it.
On est les bolcheviks.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Nous revoilà avec les Rockets Rouges sur CFM. 107.
Désolé, j'ai un peu monopolisé la parole.
C'est quoi, 107.7
9.
9. Ouais, 107.9.
C'est un sujet trop important. Voilà. D'ailleurs, pour compléter, s'il y en a qui veulent voir un truc qui est pas mal, c'est Data Gueule, le spécial 2 degrés avant la fin du monde. Data Gueule sur YouTube, vous l'avez.
Mais on peut le mettre en lien sur la page Facebook des Rockets Rouges.
Ah ouais.
Voilà. Je m'en suis un peu servi pour
ça. Et d'ailleurs, je mettrai aussi en lien des vidéos qui ont été faites par Attaque qui sont très bien. Je rebondis sur ta chronique qui dit que les consommateurs ont du pouvoir. Mais ça, c'est une question individuelle. Et moi, vous le savez, je préfère les questions politiques parce que c'est bien de manger bio, par exemple, mais c'est bien aussi de fermer les fermes industrielles, les élevages industriels.
Et tout à fait, mais c'est un peu la même démarche que le BDS auquel tu tiens tant pour la Palestine. Quand tu n'arrives pas à faire bouger au niveau de ton État, parce que faire fermer des fermes industrielles, c'est quelque chose qui est du domaine de l'État. Il te faut faire ton propre... Il te faut agir individuellement.
Oui, oui, oui.
On
non,
a plus
bien.
De poids avec justement, le portefeuille qu'avec le bulletin de vote, mais non, ça lui fait mal. Je comprends que Guillaume, ça te fasse mal.
Mais malheureusement,
ma phrase.
Je pense qu'on a plus de poids avec le portefeuille.
Je mettrai en lien sur le Facebook des Rockets Rouges aussi des vidéos d'attaque qui disent c'est bien de faire ça, mais il faut aussi agir politiquement. Et il y a 4 vidéos qui sont très bien. C'est bien de fermer le robinet d'eau, c'est bien de manger bio, je sais plus ce qu'il y a, c'est bien d'éteindre les appareils en veille. Mais il faut agir politiquement parce que la solution, elle passera par les États. C'est le problème. La COP21, c'est bien, mais les États traînent les pieds pour le faire. Et ça, c'est une question politique. Si on veut vraiment une solution globale, ce sera, à mon avis, ça passera par une solution politique qui est beaucoup plus longue à mettre en place, beaucoup plus compliquée. C'est bien de faire...
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut aussi pas être juste spectateur et il faut qu'on se rende compte qu'on a aussi un rôle à jouer.
Mais un citoyen n'est pas un spectateur, il agit dans la
vie publique. Voilà, mais il faut être citoyen. Il faut être
et moi,
citoyen.
Je suis tout à fait pas d'accord avec toi. Je pense que c'est l'inverse, que c'est les solutions locales, comme le film de Colin Serrault le montre bien, les solutions locales qui résoudront les problèmes globaux. Et que c'est justement le fait de se penser entièrement par la globalité qui fait qu'on n'agit pas localement. On est tellement tous accrochés aux lèvres du président qui va peut-être nous sortir un décret miracle qui fera baisser le CO2, mais non.
Non, mais
votre pouvoir,
il
est dans votre portefeuille, c'est tout. Quasiment.
Il faut les deux.
Et ceux qui n'ont pas de portefeuille.
Tu feras pas fermer une centrale nucléaire parce que tu es contre le nucléaire et que tu vas manifester contre le nucléaire ou parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Le nucléaire m'inquiète au moins que le CO2.
Il faut les deux, mais il faut prendre conscience qu'on a un pouvoir et il faut être citoyen, il faut être acteur, il faut se prendre en main. Si on veut résoudre ces problèmes-là, il y a les solutions d'État pour lesquelles il faut s'engager politiquement. Il y a aussi les solutions individuelles et il ne faut pas faire l'un sans l'autre parce que sinon...
Mais les solutions d'État, c'est le jour où on sera majoritaire, tandis que la solution du portefeuille, quand c'est dans ce qu'on consomme, c'est qu'on est sûr d'être actif. La solution politique, c'est, on espère faire bouger, même si on n'est pas majoritaire dans la solution. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent pas en politique en se disant, mais le Front de Gauche, vous faites 10, jamais vous arriverez à 50, donc vous n'arriverez jamais. Donc vous arriverez jamais à avoir le pouvoir. Mais l'intérêt de se mobiliser, même au sein du Front de Gauche, c'est d'obliger les partis, on va dire, dits de gouvernement, à gauchiser leur discours. Ça, faut bien le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent pas dans le sens, ah, mais ça sert à rien, vous faites 10. Mais venez, le jour où on fera 15, Hollande sera obligé d'accepter un peu plus de nos prérogatives.
Ou 20, voilà. Ou 30. Bon. Long débat. À ce propos, j'avais invité la coordination COP21 véronaise à cette émission. Et pour des questions d'agenda, on n'a pas pu se caler aujourd'hui, mais ils sont toujours intéressés. Je pense qu'on en reparlera au Roquet Rouge dans les prochaines émissions. Ouais.
On va enchaîner, sinon ouais, on n'aura pas le temps d'écouter ta super Romain.
Bonne chronique sur les, qui va bien nous faire marrer encore sur les traumatismes.
Voilà. Donc elle est pas tout à fait finie, donc vous la prendrez.
Tiens
comme
donc,
elle est.
Qui a fini ses chroniques ici?
Vous la finirez vous-même.
Ouais, hein, c'est ça.
Ouais. C'est à emporter. Donc alors, trauma et traumatisme. En psychologie, on distingue le trauma du traumatisme. Le trauma est, par exemple, un choc reçu à un moment donné. Le traumatisme va être l'idée que vous allez vous faire de ce choc, donc l'idée qu'on en garde. Bien souvent, ce qui traumatise les enfants, plus que le trauma, c'est l'affolement des adultes autour qui laissent imaginer le pire à l'enfant. Ce phénomène que nous vivons tous dans nos vies personnelles trouve son parallèle dans la société médiatique. Comme on le rappelait lors de la dernière émission, 130 morts chez nous, sous les projecteurs des médias, nous imposent un traumatisme bien plus grand que 250 000 morts de l'autre côté de la Méditerranée. Quand il s'agit de notre vie personnelle, et à la condition d'un certain travail sur soi, un humain va pouvoir comparer ses traumas et ses traumatismes au cours de sa vie. Et par ce processus, l'homme va réaliser la différence entre les faits et la perception des faits. Donc, ce que l'on peut espérer dans un avenir proche, c'est que la société fasse comme l'homme et dépasse le traumatisme pour réfléchir aux causes réelles de ses maux. L'homme met parfois 40 ans, 30 ans à regarder ses traumas avec réalisme. Et beaucoup ne le font jamais. L'inconvénient d'un traumatisé est qu'il ne réfléchit plus et cherche dans une fuite en avant psychique à se guérir à tout prix des conséquences. Alors que prévenir les futurs traumas passe forcément par un apaisement afin d'analyser froidement les causes du choc. Parfois, un petit traumatisme est salutaire. Un enfant de 3-4 ans qui se brûle, même légèrement, intégrera à vie l'effet du feu. À moins que ses parents ne soient un peu hystériques, il ne sera que légèrement traumatisé. Le problème à l'échelle d'un pays, c'est que les brûlures vécues le 13 novembre ont été très fortes. Notre maman, la presse, et notre papa, la politique, ont été à juste titre très affectés. Quand 130 personnes viennent d'être abattues, évidemment, il est très difficile de prendre du recul. Mais pour autant, il faudra bien arriver à apaiser ces tensions. Bon voilà, vous la finirez.
Merci Romain.
Ça bon, fait un peu, il vous reste 2 minutes, il vous faut conclure votre épreuve du baccalauréat de français.
Désolé. Bon, je la reprendrai dans 2 ans quand vous l'aurez oublié, je la referai mieux.
Non, c'était bien oui. Parti effectivement.
C'était bien parti, je sentais que je tenais un truc et là, pof, mon proprio est arrivé, il a fallu faire des travaux dans la maison.
Bah voyons.
Attends, je tenais un truc. Hein, mais, si, aussi, je voulais juste aussi, très rapidement, juste vous, un coup de gueule que Manuel Valls a passé dans le JDD, qui en criant assez de ces idées qui voudraient que quand la gauche protège, quand elle est ferme, quand elle parle de sécurité et d'ordre républicain, elle s'écarte de ses valeurs. La sécurité est une valeur. Donc ce monsieur qui se dit de gauche, justement, on a beaucoup moins besoin de fermeté quand on a eu de la pédagogie avant. Comprendre une règle permet de ne pas avoir besoin d'un garde-chiourme pour vous obliger à la respecter. Et si une règle, on ne peut pas l'expliquer, c'est qu'elle se justifie pas.
Voilà, mais c'est une très bonne conclusion, ça, c'est... Voilà. Bravo.
Merci.
Voilà. T'as eu ton bac, toi?
Ouais.
Ouais, ben voilà, tu vois.
Agricole.
Oui, et quand même. Bon, et ben sur ces... Parole, on va refaire une petite pause musicale. Voilà, c'était un groupe de ska qui n'existe plus, qui s'appelait Yabasta. Ils étaient de Bordeaux et voilà, ils faisaient de la bonne musique, comme en tout cas comme moi j'aime bien. Voilà. We'll
Sous la grande parade, les Mohicans sont dans les rues, fait frémir les belles inconnues. T'as des stylés dans la danse, sauf dans la gage, j'ai un trop d'essence. Oubliez le jour, et reprenez la nuit. 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 Une fois trop lourd, plus le droit d'être à la bourre. Enfile vite ton bleu travail, faut partir, gagner ta maille. Repense à tes escapades, aux surfaces et sur les stades. Comme tu gueules à tes congénères, t'es fier, heureux d'être prolétaire. Mais pour combien de temps encore va finir ce double sort? C'est pas des trucs que devrais voir, vive les galères et les déboires. Tu vis à fond dans ton présent et tu trouves ça bien moins pesant. Ah, donc je refuse de grandir, évidemment, ça va sans dire.
Il est rouge, il crie, il mord et il s'enfuit.
Ça y est, on est toujours avec les Roquets Rouges pour encore trois petites minutes. Alors on voulait parler de l'actualité est un peu terne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cool et de sympa?
Ah, moi j'ai une petite idée.
Allez, vas-y.
C'est pour sortir, pour se remonter le moral,
voir des gens,
et
tout
voir
ça.
Des gens et puis faire des découvertes parce que c'est important.
Ouh.
C'est aventurier et tout, c'est cool. Il y a le club qui organise son premier festival. C'est le festival des premières parties, ils appellent ça. Et en fait, c'est un festival sur deux jours, 18 et 19 décembre, dont la programmation est totalement inconnue et mystérieuse. Alors, ils ont préparé tout un petit décorum vachement sympa. Il va y avoir une ambiance de
folie
fou,
comme d'habitude.
Ouais. De déconne, voilà. Ça colle avec, il me semble, le début des vacances scolaires pour ceux qui y ont droit. Enfin, c'est un début de week-end. Et donc, en fait, c'est parti du constat que dans certains concerts qui ont eu lieu sur les saisons précédentes, des fois la première partie avait été mieux que la tête d'affiche.
Parce qu'on est bourré après la première partie, donc on va tout
fumoir.
Il y a
des fois où objectivement ou alors c'était les têtes d'affiche qui étaient bourrées quand elles sont à l'heure d'arriver sur scène, mais où les premières parties étaient vraiment sympas. Et puis souvent le public arrive un peu à la bourre. Normal, on arrive tous un peu à la bourre des fois et on rate la première partie. Et donc, c'est donner une place plus importante à ces premières parties en leur donnant l'occasion de faire un festival juste pour elles qui d'habitude sont un peu dénigrées parce qu'il y en a qui font des trucs super sympas. Donc c'est un festival avec plein de petits groupes, plein de découvertes.
Et il y aura quoi alors?
Et c'est une programmation mystère, je ne sais pas.
Est-ce que Miss Rocket, on peut le dire? T'es au CA du club, donc toi tu le sais?
Moi, je le sais, mais j'ai une très mauvaise mémoire, alors j'ai pas tout retenu.
Voilà. Bon.
Mais en tout cas, ça promet d'être vraiment une chouette soirée.
Si vous aimez les surprises, et si vous aimez le club.
Ouais.
Rappelle les dates.
Alors, 18 et 19 décembre.
Ok, ouais, c'est le week-end des vacances scolaires.
Ok, réservé aux billets.
Ouais, on peut les prendre en pré-vente, ouais.
Okay. Parce que là, il y en aura plus beaucoup sur place, si.
Oh ben.
Oh oui, alors. Hein, parce que tout le monde aime les surprises, dis donc.
Vous pouvez les prendre en pré-vente, comme ça vous êtes sûr d'avoir des places.
Oh, mais à tout hasard, venez quand même, quoi.
Venez quand même, ouais. Même si vous n'avez pas pris en pré-vente. Ouais.
Vous dites que vous êtes auditeur des Rock et Rouge et on vous trouve une petite place, quoi. Marion, ouais. Ouais, ça,
Et voilà, d'autres rendez-vous, non. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des manifs. Bah non, il n'y a pas de manifs, on n'a pas le droit.
J'ai dans le 10 le lundi, mais vous en foutez.
Ouais, bah bon courage à Romain, pour son dentiste.
Bon courage aux auditeurs qui, eux aussi, ont de dentiste. On pensera fort à vous. Mm-hmm. Et puis, ben, on vous fait des gros bisous. Jusqu'à la prochaine fois.
Voilà, on se reverra la prochaine émission, 29 décembre. A priori, il n'y aura rien de spécial. Ce sera une émission Rock et Rouge, comme d'habitude. Et voilà, on vous souhaite un bon séjour, quel que soit le résultat qu'il y a eu dimanche. Voilà, continuez à profiter de la vie. Décollez.
Et on lâche rien.
Voilà, on lâche rien, la lutte continue. Ciao.
Bisous.
Ciao.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Qu'est-ce qui se passe?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Oh,
boy.
Oh, no.
Les Rock et Rouge sur CFM.